Kripos, la police criminelle, administre le fichier central des personnes recherchées en Norvège. 1800 nouvelles inscriptions par an, soit 5 par jour. Dans ces affaires, on travaille toujours à partir de 4 scénarios. Le suicide, la disparition volontaire, l'accident, et bien sûr la disparition par le fait d'autrui. La dernière journée de travail de Robert Riverholt. Alors, qu'en penses-tu? Mila Lindt était assise, les jambes serrées. Elle avait ce jour-là opté pour un tailleur-pantalon et une coiffure que Robert Riverholt lui avait vue sur la jaquette de ses livres. Elle parlait toujours d'une voix douce et agréable, sans se pousser du col, sans sombrer dans les verbiages de ses autres clients. Ces questions n'étaient jamais posées machinalement pour combler les vides de la conversation. Elle interrogeait parce qu'elle voulait savoir. C'était ce qu'il préférait chez elle. Ça, et ses yeux. C'est bien. Il lui rendit ses pages de manuscrit et se renfonça dans son fauteuil, la main dans les cheveux, le sourire aux lèvres. J'ai hâte de lire la suite. Génial ! Renchérit vivement Pelle les Rasques de son canapé, plus loin dans l'appartement sous les toits, sans même lever les yeux de son iPad. Robert constata que, avec ses cheveux mi-longs, luisants, tirés en arrière, et sa chemise cintrée ouverte jusqu'au troisième bouton, l'agent suédois de Mila avait une fois de plus endossé le style vendeur de timeshare aux Canaries. Mila pivota vers lui sans rien dire avant de s'adresser de nouveau à Robert. « J'ai envie de conclure la série sur l'entrée de Gertrud dans la vie d'Auguste Mugabe. » Elle attrapa quelques mèches de cheveux, les roula entre ses doigts. « L'instant qui a tout changé. » Au début, Robert avait perçu cette manie comme le signe d'un manque d'assurance. Il avait cru à une timidité maladroite la poussant à porter sa main à ses cheveux pour les ordonner, les arranger. Il savait désormais que ce n'était pas le cas. « C'est quand sa fille a disparu, n'est-ce pas ?»«
Oui, c'est ça. »
Le regard de Robert erra par les fenêtres vers le ciel sans nuages d'Oslo. « Je crois que ce serait une digne conclusion de ce projet. »
Auguste me fait penser à toi.
Mila relâcha ses mèches, glissa un stylo plaqué or entre ses lèvres, l'y garda quelques secondes puis se mit à tambouriner avec sur son pantalon, tout en l'observant.
De plus en plus.
Oula ! Robert s'arracha un rire enjoué. J'ai laissé les choses aller trop loin, songea-t-il, obligeant ses muscles faciaux à obéir, à ne pas faillir. Bien. « Bien trop loin. » Elle l'observait encore.
« Je ne sais pas si ça a toujours été le cas ou si c'est moi qui le façonne ainsi. »«
Eh bien, surtout ne le répète à personne. » Il lui fit un clin d'œil, se tapa sur les cuisses et se leva. Saluant de la tête pêlée sur son canapé, il se dirigea vers l'entrée, où il s'arrêta et se retourna. « On se voit à Chum ce soir. Tu as rassemblé les troupes, hein ?»
confirma Mila, le rejoignant avec son manuscrit à la main. « Ils vont venir. »
Elle s'arrêta, respira.
« Tu as découvert quelque chose, du nouveau ?»«
Ce soir, Mila. On en parlera ce soir. » Dehors, le soleil envahissait le ciel, et sous ses rayons plongeants entre les immeubles, les rues de la capitale devenaient si belles, si belles. Depuis qu'il avait sauté de sa roue de hamster pour se mettre à son compte, Robert Riverholt était totalement épris de cette ville, conquis par son architecture et ses paysages sonores, au point de ne pas remarquer le pas déterminé qui s'approchait derrière lui, l'ombre qui se déployait sur lui alors qu'il s'engageait dans une ruelle plantée d'arbres vénérables. Il ne nota rien d'autre que le canon contre son occiput, et le déclic métallique du percuteur sur l'amorce. Et le soleil disparut. Première partie. Ceux à qui on manque. Chapitre 1. Je n'ai jamais aimé la transition de l'hiver au printemps. Les arbres nus et tortueux
rappelle des mutations végétales au lendemain d'une attaque nucléaire. Tout Stavanger se noie sous d'infinis giboulées qui rendent la ville grise et vert-algue. Il y a plus de monde qu'avant dans les bureaux de NAV, l'agence pour l'emploi de Klubgata. Ça se bouscule sur le canapé de la salle d'attente. Les visages sont figés, confis dans leur résignation à la défaite.
Torkildask !
La poignée de main d'Iliana n'a pas changé depuis notre dernière entrevue. Peut-être un peu plus apathique, plus froide. L'impression de saluer un cadavre dans un congélateur.
« Ravi de vous revoir !»
déclare-t-elle sans une once de conviction avant de se laisser choir sur une chaise de bureau à dossier ergonomique.
« Ah oui alors, absolument ravi !»
Je m'assieds.
« Vous souvenez-vous de votre numéro d'identité ?»«
Bien sûr. » Je retrouve entre nous la coupe de banane en plastique, toujours aussi glauque. Je constate qu'elles ont maintenant la compagnie d'une poire et d'une grappe de raisin rouge, sans pour autant que l'atmosphère générale en soit devenue plus fritée.
« Pouvez-vous me l'indiquer ?»
Elle se balance d'avant en arrière, légèrement agacée. Je récite le numéro pour qu'Iliana puisse enfin se détourner de mon visage abîmé et porter son regard sur son écran d'ordinateur.
« Vous souhaitez donc déposer une demande de pension d'invalidité en lieu et place de l'allocation de retour à l'emploi ?»«
Oui. » Je lui tends l'enveloppe que j'ai apportée. En concertation avec mon groupe de prise en charge, je suis arrivé à la conclusion que c'était la seule voie possible.
Elle retire ses lunettes d'un coup sec. « Après ce qui s'est passé quand vous avez... »
« Rendu visite à ma sœur dans le nord de Norgue, l'automne dernier, oui. »
« Vous avez tenté de... »
Iliana m'observe d'un air hésitant.
« Vous supprimez ?»«
Oui, deux fois en fait. Vous trouverez les rapports dans l'enveloppe. » Iliana tout saute en feuilletant le dossier.
« Oui, une fois avec un... »
Elle lève les yeux.
« Un harpon ?»
Je subissais trop de pression.
« De pression de notre part ? De la part de NAV ?»
J'acquiesce encore. Ulf, mon ami et psychiatre, a décidé que le moment était venu de tenter le grand chelem, l'invalidité totale. Ulf et mon médecin traitant ont même écrit ensemble une lettre dans laquelle ils prétendent que c'est l'insistance de NAV à m'envoyer travailler dans un centre d'appel à Forus qui a provoqué mes deux tentatives de suicide avorté. L'une où je me suis jeté à la mer, l'autre où je me suis tiré un harpon dans la main et la poitrine. Aucune mention n'est faite de l'affaire dans laquelle j'étais allé m'empêtrer. Ulf a même menacé d'alerter la presse si NAV continuait son manège avec ce patient cérébro-lésé hautement suicidaire qui avait d'importants besoins thérapeutiques.
« Bon. »
Iliana vérifie les papiers.
« Alors, en ce qui nous concerne, je crois que nous avons tout ce qu'il nous faut pour continuer. »
Elle rassemble les documents, les remet dans l'enveloppe, puis joint les mains sur ses genoux. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Je frotte mes doigts sur ma cicatrice à la paume. Elle me fait encore mal au point de pénétration du harpon, surtout les jours de pluie. Et c'est pas ce qui manque à Stavanger.
Bon.
Elle serre ses pouces l'un contre l'autre.
L'étape suivante sera le bilan neuropsychologique.
Qui consiste en quoi ?
Elle tourne la tête dans ma direction sans que nos regards se croisent. Il s'agit d'une série de tests cognitifs. Vous serez convoqué dans le courant du printemps.
Merci, dis-je en me levant. Iliana m'adresse un sourire compassé, sans les yeux, avant de se pencher vers la coupe de fruits en plastique.
Restez bien tranquille, Ask. Respectez vos limites. Pas de déplacement pendant que votre dossier est à l'examen.
Plus jamais. Uniquement des soirées calmes dans mon studio, en méditation profonde sur les singularités de la vie en général et de NAV en particulier. Iliana secoue faiblement la tête et se concentre à nouveau sur son ordinateur. Je m'en vais.